Bonjour à tous. Lors d'un entretien qu'elle a accordé à Madeleine Chapsal et qui a été publié dans La chair de la robe en 1989, Madeleine Vionnet décrivait ainsi son travail. « Ce que je faisais n'était pas de la mode, c'était de l'harmonie, un ensemble de formes et de couleurs qui ne devait jamais changer ni vieillir. Je ne voulais que des choses qui durent, pas seulement un mois ni un an, toujours. » Madeleine Chapsal lui répondit « C'est fragile une robe ». Et Madeleine Vionnet de conclure, pas les miennes. Vu le matériau que j'utilisais et par leur valeur artistique, elles étaient faites pour traverser le temps. Les communications de Pamela Golbin et de Betty Kirk vous auront assez convaincu de la valeur artistique des créations de Madeleine Vionnet. Et vous aurez vu que son art était bien fait pour traverser le temps. Malheureusement, le matériau qu'utilisait la couturière résiste moins bien aux années et je crains de devoir faire mentir notre chère Madeleine au cours de cette communication. En effet, c'est une opération de conservation et de restauration sans précédent qu'il a fallu mener pour préserver ce fonds exceptionnel. Ce n'est pas moins de 220 robes, manteaux et accessoires, de 73 albums de dépôt de modèles comportant presque 13 000 clichés et de 2 000 plaques de verre qu'il convenait de faire restaurer. Le mécénat exceptionnel de Natixis a permis ce tour de force puisqu'un million d'euros a été consacré au projet, dont 500 000 exclusivement réservés à la conservation préventive et à la restauration. Mais il faut avouer que la présence d'un atelier de restauration des textiles au sein même du musée a aussi été l'une des clés de cette réussite. C'est là qu'ont été menées les réflexions, ayant abouti aux choix parfois novateurs qui ont pu être établis et qui vous seront présentés au cours de ces deux journées. En tout, c'est presque 13 000 heures de restauration qu'il m'a incombé jusqu'à aujourd'hui d'organiser, de coordonner et de suivre pour voir la réussite du projet. À titre d'information, cela représente le temps de travail d'un salarié à temps plein pendant un peu plus de 8 ans. Cette campagne a été conduite en plusieurs étapes. En 2007, Pamela Golbin, conservatrice en chef, responsable des collections mode 20e et 21e siècle, et Sylvie Legrand-Rossi, mon prédécesseur, ont défini les grandes lignes et les orientations fondamentales de ce projet. Celui-ci devait donc porter sur les 220 costumes, accessoires et échantillons textiles, ainsi que sur les albums de dépôt de modèles. Étaient laissés de côté les 727 patrons qui ne présentaient pas de dégradation notable et les archives. En octobre 2007, Emmanuelle Garcin, alors restauratrice aux arts décoratifs, présentait une étude préalable de conservation-restauration du fonds Madeleine Vionnet. Ce travail a servi de référence pour définir le plan d'intervention. Les constats d'état rédigés au fur et à mesure des interventions ont bien sûr permis de le préciser, de l'enrichir et de le compléter. Mais il est resté jusqu'à aujourd'hui notre premier outil de travail et le plus précieux. En février 2008, Fabienne Vandenbroek, restauratrice aux arts décoratifs, proposait un planning des opérations, un budget prévisionnel pour les réaliser et différents axes d'intervention ayant pour but de grouper les opérations similaires, d'identifier les partenaires les plus compétents pour chaque tâche, d'optimiser les délais d'intervention et de faciliter la coordination et la vision globale de l'avancement du projet. 5 postes avaient donc été définis, nettoyage, consolidation, patronage, remise en forme, préparation au mannequinage. Nous verrons que cette projection n'a pas été retenue sous cette forme. Nous avons cependant conservé l'idée de traiter les pièces par grand type d'altération et d'optimiser les délais d'intervention. Nous souhaitions par ailleurs impliquer, en plus des restauratrices, les laboratoires de recherche, le C2RMF, le LRMH et le CRCC, des étudiants en conservation préventive ou en restauration, des professionnels du textile, pour construire un programme permettant de pérenniser la collection dans les meilleures conditions possibles. Et c'est presque 60 personnes au total qui se sont investies pour l'accomplissement de cet objectif. Le programme a véritablement commencé en juin 2008. Les délais imposés par l'exposition Madeleine Vionnet, puriste de la mode, nous laissaient peu de temps. 80 robes devaient être restaurées et mannequinées pour les prises de vue du catalogue qui avait lieu en janvier 2009 et l'exposition ouvrait ses portes en juin. 126 silhouettes devaient alors être réalisées à cette date. Parmi elles se trouvaient celles qui avaient été mannequinées une première fois pour la campagne photographique et démannequinées depuis. La restauration devait prendre en compte ces manipulations successives imposées aux collections. Sur les robes les plus fragiles, par exemple, des bandes de crépline non teintes ont été fixées à l'intérieur pour bien les identifier et pour pouvoir être cousues au mannequin, répartissant ainsi les tensions dans les zones de fragilité. L'équipe en interne a été renforcée. Début juin commençait le contrat d'Aude Mansoury, qui nous a accompagnés durant 16 mois, au-delà même de l'inauguration. En fait, je regarde là-bas, mais Aude est là-bas. En novembre 2008, Célia, qui se trouve là-bas, rejoignait l'équipe, Célia Thibault, Elle est aujourd'hui encore chargée des restaurations textiles aux arts décoratifs. Pour limiter les mouvements des œuvres, nous avons fait transférer la totalité du fonds Vionnet des réserves extérieures vers le musée, où un espace avait été dévolu à leur stockage dans une réserve de transit. Des boîtes de conservation avaient été acquises à cet effet. Un constat d'état systématique de chacune des pièces a donc pu être réalisé sur place pour confirmer les évaluations d'Emmanuel Garcin. Les robes qui nécessitaient plus de 60 heures de travail et moins de 150 heures ont été confiées à des restauratrices extérieures dont vous avez la liste à l'écran, Patricia Dalpra qui est dans la salle et qui interviendra, Isabelle Rousseau qui va intervenir aussi aujourd'hui, Antoinette Villa, Marie-Josée Solé, Martine Plantec et Emmanuel qui est à cette table. Les pièces qui ne réclamaient que des opérations courtes, moins de 60 heures, c'est quand même une durée courte toute relative, ont été réservées à l'atelier. Celles qui représentaient plus de 3 semaines de travail ont aussi été gardées à l'atelier pour être traitées en interne. Parmi elles, quelques pièces nous semblaient particulièrement difficiles à restaurer et nous voulions leur accorder toute notre attention. On a ainsi retenu quelques robes très dégradées et l'ensemble des robes en tulle de soie. De l'avis de plusieurs restauratrices à qui ces robes ont été soumises, l'intervention était trop conséquente pour pouvoir être conduite dans les délais, en respectant le budget imparti et en nourrissant même l'espoir de montrer un jour ces pièces au public. La pièce que vous avez à l'écran nécessitait 6 mois de travail à temps plein. Elle a pu être restaurée. Stéphanie Ovid-Guarneri vous la présentera. Par ailleurs, Isabelle Rousseau a effectué 30 journées forfaitaires, Florence Wab 12, Cécilia Aguirre 5, Talia Bajon-Bouzide et Emmanuel Garcin 3 chacune. Certaines opérations délicates ont ainsi pu être réalisées dans les ateliers. Je ne mentionnerai ici qu'un exemple de ces interventions délicates, une robe en mousseline de soie rose pâle avec corsage en dentelle pourpre qui a été restaurée par Florence Wab. La dentelle du corsage présentait de nombreuses déchirures et des lacunes, et elle était froissée et déformée. Le corsage a été remis à plat, puis 2 pièces de crépeline ajustées à la pièce ont été fixées sur le pourtour de la dentelle. Le tissu de support a été effiloché et laissé flottant au niveau de la taille pour être le plus discret possible et ne pas créer de tension dans cette zone. Des lignes de points avant ont été placées en diagonale sur les épaules et en quinconce en suivant le droit fil de la crépeline dans la partie inférieure. Des lignes de points de restauration ont été effectuées au niveau des zones dégradées. Dans un premier temps, la restauration avait été réalisée avec une crépeline non teinte pour ne pas gêner l'appréciation de la dentelle. Mais l'irisation des fibres rendait trop présent le tissu de support. Pour casser cet effet d'irisation, nous avons décidé de teindre la crépeline dans le ton de la robe de la mousseline, ce qui a eu pour effet de rendre presque imperceptible la restauration. Pour effectuer la répartition des restaurations, nous avons procédé à une caractérisation systématique des types de problématiques que nous aurions à traiter. Je pense qu'Emmanuel en reparlera dans quelques minutes. Un grand nombre de pièces étaient fortement empoussiérées. Par ailleurs, on notait des salissures, la plupart du temps anciennes, des taches accidentelles, des traces liées au frottement sur le sol, des résidus de maquillage. Les modèles portés par les mannequins ou les clientes présentaient des oxydations, parfois très avancées, dans les zones imprégnées par la sueur. Les usures des fibres dues à ces oxydations, au mauvais vieillissement des matériaux ou à des causes physiques étaient assez nombreuses. Dans certains cas, elles ne permettaient que de très précautionneuses manipulations. Ces usures avaient généré des fentes, des déchirures et des lacunes sur de nombreuses pièces. De mauvaises manipulations ou des conditions de stockage inadaptées avaient généré des plis, des froissements, des écrasements des textiles qui aggravaient les usures physiques ou mécaniques du fond. Une surexposition à la lumière de quelques pièces avait entraîné des dommages irréversibles et des fragilités supplémentaires. Des dégradations étaient également liées aux techniques de mise en œuvre des robes. La prédilection de Madeleine Vionnet pour les étoffes légères et surtout transparentes est fameuse. Mais ces tissus sont fragiles. Les coutures situées dans les zones de tension du vêtement s'ouvrent, le simple poids de la robe sur elle-même accentuant le phénomène. Les délicates mousselines s'affaiblissent avec le temps. Les éléments rapportés, comme les franges, se désolidarisent de leur support, entraînant des pertes. Et la présence d'ornements trop lourds pour le fond de tulle, de gaze ou de mousseline, comme les broderies de fil métallique, les perles, les paillettes ou les strass, occasionnent des déformations ou des déchirures. Ici, par exemple, la grande quantité de strass a trop sollicité la ceinture intérieure de la robe, qui s'est déchirée. Une consolidation totale de la ceinture a donc été nécessaire. Les anciennes restaurations ont aussi parfois mal vieilli et génèrent de nouvelles tensions dans les étoffes. Elles ont été systématiquement éliminées et reprises dès lors qu'elles n'assuraient plus leur rôle. Mais l'opération n'était pas toujours aisée. Plusieurs thermocollages réalisés par le passé sur les robes en tulle ont rigidifié la matière, la rendant cassante. Des fentes et des déchirures se sont produites au bord des restaurations. Les restaurations dues aux particularités de la technique de Madeleine Vionnet vous seront présentées tout à l'heure par Isabelle Rousseau, à qui ont été confiés quelques-uns des chefs-d'œuvre les plus emblématiques de la collection, comme la robe vase grecque, l'essuie-plume ou l'orage, et par Patricia Dalpra, qui évoquera la difficulté supplémentaire imposée aux restauratrices par l'usage du biais. Celui-ci rend très délicate la pose d'un tissu de support selon les méthodes traditionnellement employées par les restauratrices, particulièrement sur les mousselines. Nous devions donc faire face à différents degrés d'intervention, certaines pièces comptant jusqu'à 6 mois d'intervention, je vous l'ai dit. Par ailleurs, un nettoyage semblait s'imposer pour 70 pièces. De nombreuses consolidations devaient être envisagées, des dérestaurations, des refixages pour les éléments de broderie, comme les paillettes ou les fils métalliques, et ponctuellement des remises en forme pour les vêtements les plus froissés. Pour accompagner les restaurations réalisées à l'atelier et entreprendre l'opération de nettoyage dans les meilleures conditions possibles, nous souhaitions approfondir la connaissance que nous avions des matériaux employés par Madeleine Vionnet. Nous avons confié à une étudiante de l'école du Louvre, Coralie Cadenne, le soin d'exploiter les archives et de réunir des informations sur les fournisseurs de la créatrice. Nous lui avons demandé de consulter systématiquement les cahiers de collection conservés à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, la presse spécialisée de mode, les archives des fournisseurs et les témoignages contemporains. Ce travail a fait l'objet d'un stage de 3 mois au sein du service de conservation préventive et de restauration des musées des arts décoratifs et il a été présenté dans un mémoire de Master 2. Madeleine Vionnet a utilisé une dizaine de variétés différentes de crêpes auxquelles elle réserve sa préférence, le crêpe de Chine, le crêpe romain, marocain, satin, georgette, Agnès, Françoise, Germaine et le fameux crêpe Rosalba dont on vous a parlé tout à l'heure, qui est un tissu mat composé de 49% de soie et de 51% d'albène. Produit chez tous les fabricants, le crêpe est une des spécialités de la maison Bianchini-Ferrier, avec laquelle Madeleine Vionnet avait l'habitude de collaborer, et c'est Maria-Anne Privat-Savigny, la directrice du musée des tissus et du musée des arts décoratifs de Lyon, qui nous présentera demain la production de cette maison. Madeleine Vionnet fait également appel aux soieries de Duchard, aux étoffes de Rodier ou aux dentelles de Maresco. Les brodeurs Michonnet, puis Le Sage réalisent les décors de ses robes. Les bijoux fantaisie qu'elle intègre à ses modèles sont réalisés par les meilleurs parures du moment, comme Georges Desrues, Victor Greidenberg ou Elsa Triolet. Les cahiers de collection mentionnent malheureusement trop ponctuellement les fournisseurs. 6 noms seulement sont clairement indiqués. Mais les dessins des modèles sont régulièrement accompagnés d'un échantillon d'étoffe que vous apercevez dans l'angle supérieur gauche. Cette recherche a été effectuée au moment où la réflexion sur la question du nettoyage était menée. Il n'était pas question de soumettre les robes à cette opération sans avoir une connaissance exacte de leurs matériaux constitutifs par les sources, par les archives, par l'analyse technique et par les tests. L'usage presque exclusif de soie par Madeleine Vionnet imposait d'envisager une campagne de nettoyage au solvant. Cette opération était d'emblée envisagée comme une mesure de conservation et non comme une amélioration de l'aspect des robes. Le but était d'éliminer les salissures qui, en surface ou en profondeur, altéraient les fibres du tissu. Les robes étant différentes et leur degré d'altération aussi, le nettoyage devait s'adapter à chaque cas. Après avoir exploré différentes pistes qui conduisaient à des solutions insatisfaisantes, nous avons décidé de contacter la teinturerie Pouyanne, historiquement liée à Madeleine Vionnet. Parmi ces pistes, la première était « Peut-on traiter les robes en interne au musée ?» Il faut à peu près 100 litres de solvant pour traiter une robe, 70 robes devaient être traitées. Vous imaginez qu'on ne peut pas stocker autant de solvant dans le musée, qu'il est très dangereux de manipuler autant de solvant. On a envisagé d'externaliser cette opération, mais c'était compliqué. Aude Mansouri vous présentera demain toutes les réflexions qui ont accompagné, aujourd'hui d'ailleurs, toutes les réflexions qui ont accompagné ce nettoyage au solvant. Nous leur avons proposé à la teinturerie Pouyanne une collaboration très originale. On a construit, financé une formation à la déontologie patrimoniale et à la connaissance des altérations des fibres textiles, formation qui a été délivrée par l'INP au sein des ateliers du musée des arts décoratifs. On a également obtenu qu'Aude Mansouri et Célia Thibault interviennent avec les employés de la teinturerie dans leurs locaux après la mise en place d'un protocole de traitement adapté à la fragilité des robes. Durant plusieurs mois, 70 robes ont ainsi pu être traitées. La sélection des robes a été réalisée en fonction du degré d'empoussièrement, de la nature des matériaux constitutifs et des tests réalisés au préalable. Chaque nettoyage a fait l'objet d'un compte-rendu détaillé, archivé à la documentation du service de la conservation préventive et de la restauration des musées. Ces nettoyages se sont accompagnés de mesures, de brillance et de colorimétrie que vous présentera tout à l'heure Dominique de Reyer. Il nous restait à résoudre la question des robes très dégradées que nous souhaitions pouvoir traiter malgré cette difficulté. L'intérêt de Stéphanie Ovid-Guarneri pour la thématique des étoffes transparentes a été providentiel. Étudiante à Paris 1, cette dernière cherchait une œuvre de mémoire pour son master de conservation des biens culturels. En accord avec Pamela Golbin, je lui ai proposé l'une des robes en tulle les plus dégradées de la collection, en la mettant en garde sur la difficulté de l'intervention quand même. Mais Stéphanie a accepté de relever le défi. Pour faciliter la restauration et pour qu'elle se déroule sous le contrôle des restauratrices du musée, nous sommes convenus qu'elle effectuerait un stage de 6 mois à l'atelier des arts décoratifs et qu'elle traiterait la robe dans ce délai. Là encore, la présence simultanée de 3 restauratrices à l'atelier a suscité une émulation conduisant au choix d'une solution satisfaisante et novatrice. L'usage d'un tulle de nylon comme tissu de support, le nylon net, ses qualités comme matériau de restauration vous seront présentées par Célia Thibault. Tandis que Stéphanie Ovid-Guarneri exposera la restauration spectaculaire qu'elle a pu accomplir et qui a permis le sauvetage de la robe et son exposition dans les galeries du musée. Après l'obtention de son diplôme, nous avons d'ailleurs confié à Stéphanie une seconde robe en tulle très altérée, mais c'est comme professionnelle, cette fois, qu'elle l'a traitée. D'autres œuvres ont été englobées dans la campagne de restauration. 2 ceintures en cuir ajouré et doré ont été traitées pour être présentées dans l'exposition. Elles ont été confiées à Élise Blouet-Ménard. Des interventions de nettoyage et de refixage de la feuille métallique ont été accomplies, mais nous voulions surtout éviter de solliciter la tâche d'origine dans l'exposition. Un support en parchemin teinté a été réalisé sur mesure. Il est maintenu par des fils dorés qui passent dans les ajours et des points de velcro permettent de le positionner sur mannequin. Il peut être désolidarisé en coupant les fils pour un stockage prolongé et réutilisé ultérieurement. L'enseigne de la maison Vionnet a été confiée à Aurélia Chevalier. Elle est peinte sur bois et ornée de motifs en relief. Elle était exposée à l'extérieur de la maison Vionnet, ce qui explique les fentes du bois, les fissurations de la matière picturale, les soulèvements. La lecture était perturbée par la couche de crasse, des taches, un vernis irrégulier, des repeints inélégants appliqués sur des mastics débordants et des lacunes de couche picturale étaient également visibles. La restauration a permis de dégager les éléments perturbateurs et une retouche délicate a rendu à l'enseigne toute sa lisibilité. Le mannequin miniature sur lequel travaillait Madeleine Vionnet a été traité en interne dans l'atelier mobilier par Benoît Gênes et Pierre Coster. Le socle a été stabilisé et les lacunes sur le nez ont été comblées et réintégrées. La robe du mannequin a été comprise dans la campagne de nettoyage et traitée à la teinturerie Pouyanne. Les albums de dépôt de modèles de la maison Vionnet ont été confiés à Jérôme Monnier, qui présentera conjointement à Marie-Hélène Poix demain ses interventions. La numérisation de l'ensemble a été confiée à la société Arcinum, et cette documentation exceptionnelle a servi de référence pour la campagne de mannequinage des robes sélectionnées par les prises de vue et pour l'exposition, conjointement au travail de recherche accompli dans les archives par Éric Pujat-Lesplat. Il vous présentera ce travail demain après-midi. Ainsi, pour la première fois, les robes de Madeleine Vionnet sont-elles exposées conformément à l'intention de la créatrice. Mais l'opération de mannequinage, pilotée par Joséphine Pellas, restauratrice textile aux arts décoratifs, a véritablement été conçue de manière à permettre une exposition de longue durée en minimisant les risques pour les œuvres fragiles malgré leur restauration. Une équipe de 20 personnes a participé à cette opération, réunissant professionnels et stagiaires. Nous avons fait appel à Jean-Jacques Ezrati, ingénieur de recherche au C2RMF, pour collaborer avec l'agence André Putman, à qui avait été confiée la scénographie de l'exposition. Grâce à lui, nous avons pu mettre en place un système d'éclairage dynamique discret, mais économisant l'intensité lumineuse à laquelle les robes allaient être soumises durant 8 mois. Depuis l'inauguration, un contrôle régulier est assuré par Joséphine Pellas et Célia Thibault, qui vérifient la bonne tenue des zones de fragilité sur les robes et celles des restaurations. Des sondes ont été placées dans les vitrines qui permettent à Benoît Gênes d'assurer le suivi climatique. Un constat d'état systématique sera effectué lors du démannequinage et les interventions ponctuelles qui seront nécessaires seront réalisées immédiatement. Par ailleurs, une autre étudiante de l'école du Louvre, Claire Berthomier, s'est engagée cette année dans un mémoire de conservation préventive dirigé par Étienne Féau sur l'impact de ces 8 mois d'exposition sur les œuvres. Le fonds Vionnet, trésor du musée de la mode et du textile, est en cours de reconditionnement. Des boîtes de conservation ont été commandées chez Klug pour chacune des 220 pièces. Des tests de vieillissement ont été réalisés au C2RMF par Michel Dubu sur différents matériaux de conditionnement qui nous ont permis de choisir des tubes en jersey de coton que nous rembourrons de watts de polyester afin d'assurer le maintien des robes dans les boîtes. Depuis novembre 2009, la campagne de restauration s'est enrichie d'un nouveau volet qui n'avait pas été prévu initialement mais que nous avons pu intégrer au budget global. Les quelques 2000 plaques de verre qui constituent les négatifs des photographies de dépôt de modèles ont été confiées à André Chalulot. Elle est secondée dans cette tâche par Pierre Coster, restaurateur aux arts décoratifs, et par Émilie Perrotel, élève en mention complémentaire entretien des collections du patrimoine du lycée professionnel des arts graphiques et des arts du livre de Corbisart-Tolbiac. À l'heure où se tient ce colloque, le programme de restauration touche donc à sa fin. Il aura fallu presque 2 ans pour le réaliser entièrement, 2 ans et 13 000 heures de restauration, réparties entre 22 restaurateurs, dont 14 en spécialité textile, les autres dans les spécialités peinture, art du feu, cuirs et métaux, photographie, art graphique et mobilier. Grâce au mécénat exclusif de Natixis, grâce aux partenariats établis avec l'INP, le C2RMF, le LRMH, le CRCC, les différentes écoles, universités et les lycées polyvalents, c'est presque une 60aine de personnes qui ont été mobilisées sur ce projet. Madeleine Vionnet disait « L'art de s'habiller demande du temps et de la patience. Le peu de temps dont nous disposions, nous avons essayé de l'utiliser au mieux pour relever ce défi. La patience, c'est d'abord celle des restaurateurs que je tiens à saluer ici. » Qu'ils soient tous sincèrement remerciés pour leur implication. C'est aussi la vôtre qui avez eu le courage de m'écouter aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.